Bien, nous allons reprendre nos Bibles dans 1 Timothée chapitre 3 et continuer notre étude concernant les dirigeants et les responsables de l'Église. Nous avons vu la dernière fois qu'il y a en fait deux rôles que le Seigneur lui-même a donné à ceux qui doivent diriger son Église. Il faut que nous nous rappelions que l'Église ne nous appartient pas, mais c'est l'Église de Christ. Et ceux à qui nous prêchons appartiennent à Christ. Et ce sont ses brebis pour qui il a donné sa vie en rançon. Donc, ce n'est pas à nous de diriger l'Assemblée comme nous voulons, mais en suivant les instructions de celui qui est la tête de l'Église, le Seigneur Jésus. Et les deux rôles que nous avons déjà touchés dans l'introduction la dernière fois, il s'agit des évêques, il y a ceux qui sont responsables et ont la charge d'évêques. Il ne faut pas penser à des gens habillés d'une certaine façon qu'on voit souvent dans certaines religions qui se disent évêques. Mais le mot évêque, comme nous voyons ici dans 1 Timothée chapitre 3, signifie un surintendant, celui qui a le rôle de, au-dessus de l'Assemblée, la responsabilité de diriger l'Assemblée pour nourrir l'Assemblée dans l'Évangile. Donc le rôle de l'évêque est d'assurer que tout se passe comme il faut dans l'Assemblée. Nous avons un exemple de cela dans le livre des Actes, le chapitre 6, où il y a eu un problème dans l'Assemblée entre les veuves qui étaient d'origine grecque, ici appelés les hellénistes, et puis ceux de l'Assemblée qui étaient des Hébreux, des veuves. Et il y a eu des plaintes dans Actes 6, à partir du verset 1, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Alors c'est ainsi que les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissons la parole de Dieu pour servir aux tables. Donc, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. C'est un emploi, bien sûr, volontaire, selon ce que le Seigneur donne à cette grâce, et de prendre soin de l'Assemblée dans les moindres détails. Et c'est écrit, nous continuons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Je sais que le commentaire populaire, c'est que ce qu'ils ont fait ici, c'est de choisir alors des diacres. Mais en fait, c'est le contraire. Ici, quand les disciples disent, dans le verset 4, nous continuons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Si vous prenez une concordance qui vous ramène à l'original dans le grec, vous allez constater que ce mot ministère, c'est le mot diakonos, c'est le mot de servir comme diacre de la parole. Mais les autres qu'ils ont choisis étaient en fait des évêques, ceux qui devaient s'occuper de cette affaire afin que les diacres soient libres de continuer dans la prière et la prédication de la parole. Donc ce sont les deux rôles. ici dans notre assemblée, j'ai quelques hommes qui servent dans ce rôle d'évêques. Ce sont, comme c'est écrit ici, des hommes spirituels, c'est-à-dire évident que l'Esprit de Christ est en eux, et ils m'aident beaucoup dans le ministère, mais mon ministère, c'est plutôt de servir comme diacre dans la prédication de l'Évangile. Et leur rôle, c'est de s'occuper d'autres détails dans l'Assemblée afin de me permettre de faire ce que le Seigneur m'a suscité pour faire, c'est de servir de diacre de l'Évangile, un ministre. En fait, je préfère ce titre-là. Ce n'est pas que le mot pasteur a un mauvais sens, mais c'est abusé aujourd'hui par beaucoup qui aiment se dire pasteur. Donc, nous sommes des ministres du Seigneur et nous sommes serviteurs du Seigneur pour la prédication fidèle de l'Évangile. Donc, voilà les deux rôles que nous constatons ici. Et comme nous avons vu la dernière fois, quand on constate les qualifications décrites ici, il faut dire que les qualifications sont les mêmes pour ceux qui servent dans ce rôle d'évêque ou surintendant et ceux qui sont des prédicateurs dans l'Assemblée, prédicateurs de l'Évangile. Et notez, dans les deux rôles, la responsabilité ne revient pas à un seul. Il s'adresse ici dans le verset 8 que nous allons voir tantôt, les diacres. Mais si l'Assemblée, comme dans notre Assemblée, il y avait un temps où il y avait plusieurs hommes qui m'aidaient dans la prédication, maintenant, avec le passage du temps, c'est à moi seul pour le moment. Ce n'est pas que le Seigneur ne peut pas susciter d'autres, mais jusque-là, nous n'avons pas dans notre assemblée d'autres qui sont qualifiés de se lever et annoncer et prêcher l'Évangile. Ceux qui sont les évêques, ils m'aident dans la lecture, cours de nos cultes, et ils dirigent l'assemblée dans la prière, et ils s'occupent de d'autres choses qui concernent les besoins de l'assemblée, encore qui me libèrent moi-même d'être, de servir dans ce rôle de diacre. Mais jusqu'à présent, c'est moi seul. Ce n'est pas que je veux que ça soit ainsi, mais c'est la manière que Dieu lui-même a dirigé jusque-là. Et je sais que au moment prévu par Dieu lui-même, il suscitera d'autres hommes qui sont capables de m'aider dans la prédication de l'Évangile. Mais en attendant, nous n'essayons pas de placer quelqu'un dans ce rôle simplement parce qu'il faut quelqu'un d'autre comme aide. Non, nous servons le Seigneur selon ce que lui-même il ordonne. Et je suis content dans cela. Mais ce n'est pas un rôle que nous avons à saisir pour avoir le pouvoir sur qui que ce soit. Mais nous servons selon la volonté du Seigneur. Alors, les qualifications sont les mêmes. Ici, nous avons vu la dernière fois, il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Personne ne peut être irréprochable dans le sens d'être sans péché. Nous sommes des pécheurs. Il a plu à Dieu de sauver par sa grâce. Donc si nous sommes irréprochables, c'est à cause de la justice du Christ que lui-même il a accompli par sa vie et par sa mort à la croix. Et c'est en lui que ceux qui servent comme dirigeants sont irréprochables. Nous avons vu aussi mari d'une seule femme. Cela veut dire que à l'époque, dans cette culture, il y avait les polygames. Mais il faut que celui qui sert comme évêque, un surintendant dans l'assemblée, soit le mari d'une seule femme, conformément à ce que Christ est pour son Église. l'Église n'a qu'un seul mari et une seule femme. Donc, celui qui dirige dans l'Assemblée est représentant du Christ de cette manière. Et puis, sobre, le mot signifie qu'il n'est pas saoulé, comme celui qui boit et qui n'a pas ses propres sens, non, sobre. Veut dire, ayant la capacité par l'Esprit de Dieu de discerner toutes choses dans l'Assemblée pour le bien de l'Assemblée et pour la gloire de Christ. Modéré, dans le même sens, humble, et réglé dans sa conduite, réglé comment? Par la grâce de Dieu. Ce n'est pas selon les obligations, mais réglé selon cette même grâce qui a fait du pécheur un enfant de Dieu, réglé dans sa conduite, c'est-à-dire tout ce qu'il fait, c'est par la grâce de Dieu et pour la gloire de Christ. Hospitalier, on ne peut pas distinguer, voilà ce qui était un problème dans le premier siècle, et ça continue aujourd'hui quand une assemblée à plusieurs membres de différentes cultures et sociétés, on ne doit pas favoriser certains et négliger d'autres, comme nous avons vu était le cas dans Actes chapitre 6, mais hospitalier envers tous, recevoir tous, comme Christ. Il n'a pas fait distinction dans sa manière de traiter avec les pécheurs, pensant que ceux-là méritaient peut-être plus de sa faveur que d'autres. Non, hospitalier signifie toujours prêt à recevoir qui que ce soit, sachant que c'est le Seigneur qui dirige dans son assemblée qui il veut. Je sais que parfois nous habituons à certains dans nos assemblées qui viennent régulièrement et nous avons ces relations avec eux et puis d'un coup voilà un visiteur arrive et il décide à rester, c'est le Seigneur qui le dirige ainsi, mais celui-là n'est pas exactement comme nous sommes habitués, donc certains commencent maintenant à négliger cela. Pour dire non, ils ne sont pas de nôtres, ils ne sont pas de notre société. Mais en ce qui concerne la grâce de Dieu, nous ne pouvons pas traiter certains avec faveur et négliger d'autres. Telle est la manière que le Seigneur nous dirige. Et surtout quand il y a des gens de différentes races qui se rassemblent. Ici, c'est une question de Grecs, des païens qui entraient dans l'assemblée et se joignaient avec les juifs. Donc, Paul est en train de dire à Timothée, on ne peut pas favoriser les juifs et négliger les païens parce qu'ils ne sont pas considérés comme des juifs. Non. La grâce de Dieu nous enseigne à recevoir tous et diriger nos vies pour dans l'amour pour tous, sans exception, sans distinction de race. C'est ainsi que Dieu a élu des pécheurs du monde entier. Ce n'est pas sans exception, comme si tout le monde, mais sans distinction de race. Il a choisi qui il voulait depuis l'éternité. Et donc, nous devons recevoir ce que le Seigneur a dit. Certes, il y a ceux qui rentrent dans l'Assemblée et qui restent pour un certain temps, mais ne sont pas là pour l'Évangile. Ils sont là pour leur propre intérêt et avec un certain temps, on les voit partir. Mais ce n'est pas à nous de les chasser parce qu'ils ne sont pas selon nos pensées, des gens à recevoir, non. C'est Dieu qui doit faire la séparation entre ceux qui sont brebis et ceux qui sont boucs. Et en attendant, il nous faut de la patience parce qu'on ne sait pas. Peut-être quelqu'un qui entre au début, il trouble l'assemblée selon la manière qu'il a été enseigné, élevé, mais avec un certain temps, le Seigneur œuvre dans son cœur une œuvre de grâce et celui-là devient un véritable ami de l'Évangile selon ce que Dieu a ordonné depuis toujours. Donc on ne peut pas dire « Ah, mais il ne connaît rien, donc on doit le chasser. » Non. Comment est-ce que le Seigneur a traité avec nous? Il nous a reçus, il nous a acceptés en Christ tel que nous sommes. Et c'est par son esprit maintenant qu'il continue à nous enseigner, à nous diriger. Donc, c'est de cette manière que nous devons traiter d'autres. Et puis, dans le verset 1, 2, c'est écrit aussi « propre à l'enseignement ». Cela ne signifie pas simplement « propre à enseigner », mais « propre à être enseigné ». Il n'y a aucun de nous qui a toute connaissance ou dira « mais je n'ai pas besoin d'être enseigné ». Donc, propre à l'enseignement du même évangile que nous annonçons, être enseigné par cet enseignement et avoir la conduite conformément à l'évangile. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, verset 3, ni violent, mais indulgent et pacifique, désintéressé. Voilà encore ce sens, désintéressé, ne pas être attaché aux affaires de ce monde ou négliger le ministère dont le Seigneur nous a donné. Donc l'évêque, ce ne dit pas ici qu'il ne doit pas boire du vin. Il y a toujours ceux qui disent, ah voilà, il ne faut pas que le vin même touche nos lèvres, non? Mais il faut qu'il ne soit ni adonné au vin. Voilà la différence. Ce n'est pas un péché d'avoir du vin de temps en temps. Notre Seigneur lui-même, ça faisait partie de la culture de prendre du vin avec le repas, etc. Mais ne pas être adonné au vin. Et on peut reconnaître la différence. Il y en a qui ne peuvent pas vivre sans avoir du vin, sans boire. Et qui sont souvent enivrés, cela ne doit pas être le cas d'un évêque, parce que le vin pousse souvent à la violence, c'est pourquoi c'est écrit ni violent. Ça ne peut pas dire simplement violent avec les mains, mais ça peut être ça, mais surtout avec la langue, nous ne devons pas avoir un esprit de parler mauvais de certains gens et d'utiliser notre langue, de minimiser, non. Mais indulgent dans le sens que celui qui est évêque, comme un bon économe, il dirige ses propres affaires avec distinction, discernant. Il n'est pas en train d'utiliser ce que le Seigneur lui donne pour son gain. Mais tout ce qu'il fait, c'est pour avoir le Christ pacifique et désintéressé. Ce mot désintéressé signifie n'ayant pas la convoitise. Celui qui est évêque ne doit pas convoiter les choses du monde, ou bien convoiter peut-être certaines positions dans l'assemblée, ou convoiter ce que d'autres ont, mais que le Seigneur n'a pas donné à l'évêque. Désintéressé dans ce sens, détaché de toute chose sauf de servir Christ et d'annoncer son évangile. Bien sûr, nous parlons. Celui qui aspire à la charge d'évêque, celui qui aspire à cette charge, c'est le Saint lui-même qui lui a donné ce désir. Donc, c'est ainsi qu'il dirige. Et dans le verset 4 et 5, de la manière qu'il dirige sa propre maison, verset 4, c'est ainsi qu'il doit diriger l'assemblée comme un père avec ses enfants. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Je serai le premier à confesser que cela est une tâche très difficile, ayant élevé 3 enfants moi-même. Et il faut tenir ses enfants dans la discipline aussi longtemps qu'ils sont sous notre toit. Ce n'est pas toujours facile parce que les yeux des autres sont sur vous en regardant la manière que vous traitez vos enfants. Et s'il y a du désordre, cela encourage en même temps le désordre dans l'assemblée parce que d'autres vont dire, ah, voilà comment notre dirigeant, notre responsable, notre évêque dirige sa famille, donc peu importe la manière que nous dirigeons la nôtre. Il dit ici, si quelqu'un, verset 5, ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Donc, nous devons vraiment prier le Seigneur à tout temps, à ce qu'il nous dirige dans les affaires de notre propre famille, s'il y a encore des enfants à la maison, et que nous les dirigeons pas comme un dictateur, mais dans l'amour, et priant pour nos enfants, et les enseignants, leur donnant des instructions, la discipline, de regarder vers Christ comme des pécheurs tels qu'ils sont. Alors, dans le verset 6, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. C'est-à-dire, un enfant nouveau-né en Christ, ce qu'il faut, c'est du temps qui passe. Il faut que celui qui dirige ait eu le temps sous l'écoute de l'Évangile lui-même. Autrement, c'est écrit ici dans le verset 6, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Le jugement du diable, ça se réfère au début dans le jardin, où dans l'ignorance, il a détourné Adam et Ève. Je sais que surtout les jeunes ont beaucoup de zèle, mais il faut faire attention. Mieux vaut ne pas avoir un évêque qui aide le prédicateur que d'avoir quelqu'un qui est plein de zèle, mais aussi plein d'ignorance. Et qui enflé d'orgueil, disant, ah, voilà, je viens de me convertir et déjà, on me donne un rôle dans l'assemblée. Non. Il est mieux que un tel s'assoie et il écoute jusqu'à ce que c'est évident que il est en train de croître dans l'Évangile et croître dans la grâce de Dieu pour devenir un homme mûr. Alors, ça prend beaucoup de patience. Et dans le verset 7, il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. C'est intéressant parce que ce n'est pas seulement ceux de l'Assemblée, mais comment est-ce qu'il se conduit dehors? Est-ce que c'est quelqu'un qui sait payer ses bons? Est-ce que c'est quelqu'un que même parmi ceux qui ne sont pas convertis, ils disent de lui, ah, ça c'est quelqu'un qu'on peut vraiment traiter avec. Ouais. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Alors encore, les pièges du diable, c'est, comme on l'a vu déjà, est entrée d'orgueil. Et malheureusement, il y a beaucoup qui dirigent, qui sont responsables, qui traitent leur position en tant que telle comme un sujet d'orgueil, s'enorgueillir. Ils aiment les titres, mais tel n'est pas le cas de celui que le Seigneur lui-même suscite. Alors, voilà les qualifications de celui qui aspire à la charge d'évêque, pour que ce soit des hommes mûrs. Mais aussi, dans le verset 8, les diacres maintenant. Et encore, comme je disais, les diacres sont des ministres, sont des prédicateurs, quoique les évêques dirigent dans l'assemblée, les diacres représentent ceux qui prennent la parole et qui l'annoncent, que ce soit dans l'assemblée ou que ce soit dehors. Et donc les diacres aussi doivent être honnêtes quand c'est écrit aussi. Ça ne fait pas distinction alors dans les qualifications d'un évêque ou un prédicateur. Les diacres doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du bain, d'un gain sordide. Je pense que tout est compréhensible là. Ça doit être des gens qui sont sobres dans leur prédication et éloignés de la duplicité. Je considère ça surtout dans la prédication, toujours prêchant un seul message. Christ est Christ crucifié. Et ne pas changer le message dépendant maintenant de l'audience. Non, toujours sans duplicité, déclarant la gloire de Christ devant les pécheurs, sachant que c'est ça le message que le Seigneur bénit. Et encore, éloigné des excès du vin. Ça ne dit pas encore, on ne doit pas avoir de vin du tout, mais éloigné des excès du vin, comme notre Seigneur Jésus lui-même. Le premier miracle qu'il a fait était de changer l'eau en vin. Tel est son pouvoir en tant que Seigneur, et c'était le meilleur vin. Les gens qui s'opposaient à Christ l'accusaient d'être un soulard, parce qu'il buvait, il mangeait avec les pécheurs. Il était l'ami des pécheurs. Mais il n'y a jamais eu de temps où le Saint lui-même était saoulé, éloigné des excès du vin et d'un gain sorti. Cela veut dire nous ne devons pas servir dans le ministère pour gagner notre vie et s'enrichir. C'est pourquoi moi-même, je travaille dans une entreprise que le Seigneur m'a donné l'intelligence de commencer. Et cela est la manière que le Seigneur souvient à mes besoins et à ceux de ma famille. Pour ne pas être à la charge de notre assemblée. Je sais qu'il y a des prédicateurs. Ils cherchent toujours une meilleure position, donc ils viennent prêcher pour un certain temps, mais dès qu'il y a une autre assemblée où ils ont la possibilité de gagner plus d'argent, de salaire, donc ils quittent cette assemblée, ils s'en vont dans l'autre sens. Cela ne doit pas être la manière d'un diacre, un prédicateur, un ministre du Seigneur, éloigné d'un gain sordide. Verset 9. Voilà ce qui concerne la prédication. Conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Ce mot mystère de la foi est synonyme de l'évangile de Christ. C'est un mystère de cette foi qui concerne Christ et Christ crucifié. Donc, nous devons conserver cette foi, cet évangile, dans une conscience pure, c'est-à-dire prêchant d'une manière qui donne toute la gloire à Christ, sans pervertir le message simplement pour satisfaire ceux qui nous écoutent. L'évangile est une offense, c'est sûr. Annoncer Christ tel qu'il est ici dans les Écritures, offense les hommes, surtout les hommes religieux. Mais pour cela, nous ne devons pas négliger de prêcher le mystère de la foi tel quel, dans une conscience pure, sachant qu'il n'y a jamais eu un temps de compromis en ce qui concerne l'annonce du Christ. Et qu'on les éprouve d'abord, même chose que pour les évêques, il ne faut pas qu'ils soient un nouveau converti, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Comment est-ce qu'on les approuve? Avec du temps. En voyant la manière qu'ils reçoivent cet évangile et se réjouissent dans cet évangile, ça c'est une évidence de la grâce de Dieu en eux. Et c'est ainsi qu'on peut les dédier maintenant à ce ministère. Et c'est écrit les femmes, ça c'est vrai du diacre, mais aussi de l'évêque, les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Pourquoi est-ce que cela est important? Parce que la femme doit soutenir le mari dans le ministère, être de son côté, et il faut que la femme elle-même soit sobre, sous la tutelle de son mari, suivant l'exemple de son mari et ne pas être une femme rebelle ou bien qui aime se déplacer ou parler de n'importe quoi ou susciter des troubles dans l'assemblée. Et encore, dans le verset 12, les diacres doivent être mariés d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Donc, on voit ici l'unité qui est nécessaire dans le foyer, sans contradiction en ce qui concerne l'évangile. Car ceux qui remplissent, le verset 13, convenablement leur ministère, et encore ce mot ministère, dans l'original, c'est le mot diacre, le diaconat, s'acquiert un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Alors, servir le Seigneur de cette manière comme prédicateur, ce n'est pas un honneur qu'on se donne nous-mêmes, mais véritablement, c'est honorable, comme c'est écrit ici. Si Pierre, un rang honorable, je ne peux pas penser à un rôle plus important que de passer ma vie en servant le Seigneur Jésus-Christ et en annonçant son évangile. Et c'est ce que fait ce qui dirige, ce que le Seigneur place dans ses rôles, dans son assemblée. Alors Paul dit, je t'écris ces choses avec l'assurance d'aller bientôt vers toi. Rappelons-nous qu'il était en prison à ce moment-là, mais il espérait être libéré par la grâce de Dieu de pouvoir revenir et se joindre de nouveau à Timothée. Mais en attendant, il dit, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. La maison de Dieu s'agit de l'assemblée des élus que Christ a racheté et rassemblé. C'est ça la maison de Dieu. Ce n'est pas une maison faite de briques et de ciment, mais la maison de Dieu s'agit des pécheurs que Dieu lui-même a choisis et pour qui Christ a donné sa vie. Ça, c'est l'Église. Il dit, qui est l'Église du Dieu vivant. Le mot Église veut dire ceux qui sont appelés, séparés à Christ. Et c'est ça qui est la colonne et l'appui de la vérité. Cela n'appartient pas à une dénomination. Mais ceux qui sont enseignés par l'Esprit de Dieu dans cet évangile du Christ qui lui donne toute la gloire, c'est cette Église qui représente la colonne et l'appui de la vérité. Ça réside en ceux que Dieu lui-même a sauvés par sa grâce et pour qui Christ est mort. C'est là que nous voyons un exemple de la vérité. Donc ceux qui sont de ce nombre honorent Dieu en rendant témoignage à Christ pas se donnant eux-mêmes de gloire, mais donnant toute la gloire à Christ. Et c'est ainsi qu'il dit, et je vais revenir sur ça la prochaine fois, sans contredit. Notez, le mystère de la piété, c'est le même mystère qui est mentionné dans le verset 9, concernant le mystère de la loi. Quel est ce mystère? Le mystère est ce qui doit être révélé. On ne peut pas appréhender le Christ de la Bible sans que l'Esprit nous le révèle dans notre cœur. Mais ce mystère de la piété est grand. Et il s'agit de celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans sa gloire. Et je vais revenir spécialement sur ce verset la prochaine fois, parce que dans ce seul verset, nous avons le complet de l'Évangile du Christ et du Christ crucifié. Alors que le Seigneur bénisse ce que nous venons d'entendre. Amen.